Donc, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes donc en direct depuis le studio 99. C'est ici à l'espace quartier des Charmis, depuis notre charmant nouveau studio au chaud. Et ça, c'est une nouveauté pour Libre Radio. On en est bien content. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 17h aujourd'hui. Et nous recevons pour commencer cette émission la liste numéro 8 pour Genève, avec trois représentants qui allaient d'ailleurs vous présenter. Bienvenue à vous, déjà. Est-ce que tout va bien? Ça va? On est un petit peu en retard, on a connu des petits soucis techniques. Cette émission va être un petit peu compliquée, mais c'est pas grave, on est courageux et courageux, on va tenir le coup comme ça. Alors, nous avons Nicole Kuderly, bienvenue à toi.
Merci.
Ensuite, vous vous présenterez plus en détail, bien entendu, par rapport à la liste et à l'aune de ces élections. Nous allons évidemment introduire un peu le sujet. Jean-Michel Ruckstuhl.
Jean-Claude.
Hop, Jean-Michel, pardon. Jean-Claude Ruckstuhl, c'est ça?
Ruckstuhl.
Ruckstuhl. Ouais, ben voilà, évidemment, je me suis entraîné, mais c'est au moment où il fallait que je dise bien que ça ne marche pas. Et Olivier Zimmermann, bienvenue à toi également.
Bonjour, William.
Enchanté de te revoir. Nous, on se voit, et on va bien entendu le dire, puisqu'on en parle. On se voit souvent aux causeries du Lucignol, aux rencontres du Lucignol 8, qui sont des prises de parole libres autour d'un sujet qui ont lieu à peu près tous les mois, pourrait-on dire.
Tout à fait.
Et la prochaine d'ailleurs aura lieu, c'est bientôt, c'est le 2 mars, si je ne me trompe pas.
Exact. Ouais.
Donc on viendra là-dessus, bien entendu. Alors, ces élections cantonales, on va le rappeler en quelques mots et vous allez effectivement compléter mes dires. Mais donc il s'agit d'élections cantonales, comme on l'a dit, on va élire le législatif, le corps législatif, c'est-à-dire 100 délégués du peuple qui vont siéger pendant 5 années au Grand Conseil ici à Genève. Et donc, il y a un certain nombre de listes politiques qui s'engagent avec un certain nombre d'élus. Au total, c'est 13 listes qui sont inscrites. Et dans chacune d'elles, il y a un minimum de 15 candidats qui sont en course. Alors, il s'agit également d'une élection qui englobe l'élection de l'exécutif, puisque le Conseil des États sera également élu à ce moment-là. Ces élections, elles vont avoir lieu le 15 avril prochain. Eh bien, vous êtes au concours de cette liste également. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on fait un petit tour de table? Nicole, pourrais-tu commencer par te présenter un petit peu mieux?
Oui, bien sûr.
On y va.
Donc, Nicole Kuderly, moi, je suis... Voilà, ça fonctionne mieux.
OK, on y va.
Donc, paquisarde d'adoption. Ça fait 20 ans que j'y vis, que je participe à la vie sociale de mon quartier, au niveau associatif, au niveau engagement. D'ailleurs, ces dernières années, j'ai eu le plaisir de participer au contrat de quartier qui a été mis en place par la ville de Genève. Ça m'a permis d'élargir mon réseau, de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne la coordination entre la ville et le canton. Quand on fait des demandes spécifiques pour améliorer la vie de quartier, dans le contrat de quartier, c'était justement la participation des habitants, savoir de ce qu'on pouvait améliorer dans le quartier. Et puis, c'était une expérience très riche qui, bon, malheureusement, n'a pas abouti dans le sens où on le souhaitait, pour diverses raisons, pour maintien d'échéanciers qui n'étaient pas maintenus, pour des promesses qui n'ont pas pu aboutir. Voilà, et donc quand ce contrat de quartier s'est terminé, je me suis penchée un petit peu dans les différents programmes de différents partis politiques. Je ne me suis jamais située avant ça. J'avais toujours dans mes votes autant de prises de position de part et d'autre, assez aléatoires, mais jamais précisément à un parti ou à une liste. Et puis, je me suis investie dans le Parti radical de gauche. Je suis la secrétaire du PRG. Et de fil en aiguille, nous avons décidé de créer la liste pour Genève.
Dont on rappelle que c'est également une liste citoyenne, puisque...
Tout à fait, elle est ouverte à tous.
Voilà.
Elle est ouverte à tout le monde, à des indépendants, à des personnes de la gauche.
Oui. Alors, justement... on va déjà dire d'ores et déjà le site internet dédié à cette campagne, c'est donc la liste pour Genève.ch, la liste pour Genève en un mot. Mm-hmm. Là, on y trouve, j'imagine, évidemment, le programme, le contact et les prochaines activités qui auront cours de cette liste. Ce qui est mis en avant, c'est les valeurs laïques et les valeurs républicaines. Ça, c'est parce que vous pensiez qu'il fallait remettre au centre ces valeurs-là. Elles sont actuellement, selon vous, mises au banc ou en tout cas galvaudées pour le moins?
Alors au niveau de la laïcité, en tout cas, typiquement, là pour le moment, c'est en totale contradiction par rapport à l'impôt ecclésiastique, donc l'impôt qui figure sur notre déclaration d'impôt. Si l'État était laïque, on n'aurait pas cette proposition, cette petite coche à mettre sur notre déclaration d'impôt. Donc ça, c'est par exemple un point qui est flagrant.
D'accord. On va continuer le tour de table.
Oui. Peut-être à ce sujet, je dirais que, en fait, c'est les valeurs républicaines, dont la laïcité, en tout cas de notre point de vue, ne sont défendues par aucun parti. Aucun parti mentionne la laïcité. À une époque, il y avait le parti pirate, étonnamment. Mm-hmm. Mais bon, lui, on n'en entend plus trop parler. Je crois qu'il ne se représente pas. Donc, du coup, a priori, on est le seul à parler du sujet. Et pourtant, il faut se rendre compte que le groupe interreligieux à Genève pèse de tout son poids. Et je crois qu'on peut dire qu'il y a eu des reculs dans ces dernières années. Comme partout, ils s'attaquent avant tout au domaine de l'instruction et essayent d'y faire figurer le religieux. Donc là, il y a l'étude des grands livres, comme on dit. Et ça, c'est typiquement une intervention du religieux dans l'État. Et c'est toujours les mêmes religions qui sont mises en avant. Hein. C'est les plus répandues.
Absolument. Alors, puisque tu as la parole, je te laisse peut-être te présenter plus en avant, comme on continuait le tour de table des présentations.
Oui, donc Olivier Zimmermann, je suis employé de commerce. Ça fait depuis quelques années que l'associatif m'intéresse beaucoup et je m'y engage autant que possible. Et puis je me suis rendu compte que, donc déjà que la politique c'était important pour faire avancer ces idées. Maintenant c'est vrai que la politique mais pas forcément les partis, donc ça c'est plus récent. Et quand on m'a proposé de contribuer au programme du parti, j'ai trouvé que c'était une aventure géniale et du coup J'ai suivi l'aventure du Parti radical de gauche, puis de la liste pour Genève.
Et pourquoi celle-là plutôt qu'une autre ? C'est parce que justement, selon toi, ces notions qui sont au centre sont celles qui ne sont portées que par cette liste ?
Explicitement, en tout cas, oui. Ouais, et d'accord. Je trouve que c'est important de le dire explicitement. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de partis qui font on va dire du copinage avec certaines communautés et qui oublient que l'individu doit être au centre. Voilà, tout simplement.
Je pense que c'est déjà suffisant. Monsieur Ruckerstuhl, à vous alors. Comment, de quelle manière avez-vous, qui êtes-vous déjà? Et puis comment est-ce que vous vous êtes approché de cette liste-là?
Eh bien écoutez, je suis un genevois d'adoption. Hein. Je suis arrivé à Genève en 85 d'une lointaine région jurassienne. Et puis depuis 1985, je me suis investi dans différentes actions au bénéfice de la communauté genevoise. Ça veut dire que j'ai travaillé avec des personnes dans les quartiers. J'ai travaillé presque 16 ans comme animateur socioculturel dans différentes régions du canton, Carouge, Genève, différentes régions. Et donc, dans cette activité-là, évidemment, c'était une implication profonde, régulière, auprès des jeunes, auprès des enfants, auprès des familles, dans des quartiers. Et donc ça, c'était quelque chose d'important et ça m'a appris à connaître de manière relativement large et complète la vie de la communauté dans laquelle je venais m'inscrire depuis l'étranger. Et donc, après ça, j'ai switché vers quelque chose de plus médical, hein, dans le sens où je suis allé travailler au HUG. J'ai travaillé au HUG pendant 16 ans, toujours en lien avec ce qui m'anime depuis toujours, c'est-à-dire le soutien aux plus fragiles, aux plus faibles de notre communauté. Et donc j'ai travaillé avec des personnes fragiles, des personnes qui étaient malades, des personnes qui étaient dans un projet de santé qui était difficile, compliqué, ardu. C'est la transplantation. Et donc quand on est en face d'une fin de vie possible, probable, c'est toujours difficile, hein, d'imaginer ce que va être le lendemain. Donc voilà, j'ai passé une grande partie de ma vie à être, je dirais, proche des gens qui étaient dans une situation difficile. Et puis depuis 10 ans, je me suis encore une fois de plus engagé dans une activité reliée notamment aux patients aussi, c'est-à-dire j'ai créé une fondation à Genève avec différents partenaires qui s'appelle la Fondation Agir. Et donc j'ai souhaité offrir une alternative à des transports pour personnes à mobilité réduite pour notamment, en tout cas pour l'instant, pouvoir aller se soigner à des coûts moindres. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand on est malade et qu'on doit avoir recours à un transport dit accompagné, aujourd'hui, on est dans des sommes qui sont rocambolesques. C'est des sommes astronomiques. Et donc, en un mois, en deux mois, on peut épuiser sa fortune à faire des courses dans ce domaine-là. Alors évidemment que ça pose un certain nombre de problèmes. Dans les années 90, Guy-Olivier II avait fait quelque chose de très bien. Il avait imaginé que l'hôpital viendrait à la maison. Ça veut dire que les personnes pourraient rester chez elles et puis on allait organiser les soins à domicile. Et c'est ce qui a été fait avec l'IMAD, avec un ensemble de partenaires qui ont été intéressés et qui ont été choisis pour apporter du réconfort et puis des soins à la maison. Mais ce à quoi on n'a pas pensé à l'époque, c'était que finalement, quand il fallait aller à l'hôpital quand même, parce qu'il faut y aller à l'hôpital, je suis désolé, on ne peut pas tout faire à la maison, eh bien ça n'a pas été pensé. Donc, il manquait, je dirais, il y a un chaînon manquant.
On rencontre des parcours de vie différents, mais il y a une discrimination par rapport aux gens qui se retrouvent à l'hospice actuellement qui est énorme. Et puis, il y a des choses à changer à ce sujet, et notamment aussi dans la coordination chômage, hospice, remise des personnes sur le marché de l'emploi, etc.
D'accord. Alors, combien êtes-vous sur la liste numéro 8, la liste pour Genève ?
Nous sommes 16.
16 au total, d'accord. Ouais. Quelle est l'extraction sociale ? D'où proviennent ces personnes-là ? Est-ce que justement, au même titre que ce que vous venez de dire, parce qu'on vient de toucher déjà 3 sujets qui sont quand même extrêmement importants, extrêmement essentiels, mais extrêmement divers, variés, ce que je veux dire. Comment est-ce que l'idée de la question, c'est d'arriver à vous demander comment est-ce qu'on fait un programme quand on est, si j'ai bien compris, une liste quand même extrêmement diversifiée. Est-ce qu'on arrive avec un consensus ? Est-ce que ça prend beaucoup de temps ? Est-ce que ça a été un accouchement dans la douleur ? Comment ça s'est fait ? Donc la question à deux volets, c'est qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Les personnes qui sont sur cette liste, qui postulantes, et comment est-ce qu'on arrive à produire un programme cohérent, avec une cohésion qui serait votre programme ? Je ne sais pas qui veut commencer à répondre, Nicole, et puis ensuite Jean-Claude.
Alors, il y a des personnes effectivement qui viennent de tout milieu. Il y a déjà des pointures, des personnes qui ont un bagage en politique qui est assez long, comme Magali Orsini, Pierre Gauthier, aussi Stéphane Guépierre et Catherine Armand, qui sont conseillers communaux. Catherine Armand, conseil municipal de Chênebougerie. Et puis pour élaborer ce programme, on s'est tous mis autour de la table. On avait donc la ligne à suivre, donc une liste républicaine et laïque, et ensuite chacun a pu exprimer ce qu'il souhaitait voir apparaître, ses opinions. Ça a été débattu assez rapidement finalement, parce qu'on s'est tous reconnus dans une même ligne.
D'accord. Jean-Claude.
Oui, le programme, il est l'émanation de chacun d'entre nous, ça c'est sûr. Maintenant, je pense que en créant ce programme, on a quand même fait la réflexion de se dire, si on travaille pour un projet, on va travailler pour être élu, éventuellement pour 5 ans, ce que j'espère d'ailleurs. Donc il faut être relativement raisonnable, il faut être humble et de se dire en 5 ans, on ne pourra pas transformer l'ensemble des choses que l'on voudrait transformer. Donc c'est un peu l'idée qui nous a poursuivi, de se dire ok, prenons les sujets les plus essentiels et puis offrons-les à l'ensemble des personnes de la communauté genevoise qui va se rendre au bureau de vote le 15 avril.
D'accord. Olivier, voudrais-tu... Non, Nicole, Olivier, à ton tour. Et puis...
Oui, ben, je crois que pour certains d'entre nous, en tout cas, l'expérience des insoumis de Jean-Luc Mélenchon nous ont particulièrement intéressés et nous ont inspirés, en partie en tout cas.
D'accord. Donc là, on peut dire que s'il fallait trouver des pairs PAIRS, dans les pays voisins par exemple, des personnes desquelles vous tireriez quelques idées ou quelques élans, ce serait par exemple les insoumis en France. Mm-hmm. D'accord.
Oui, absolument.
Et puis dans cette liste, j'ai parlé des personnes qui avaient déjà un certain bagage politique et puis il y en a d'autres, typiquement comme moi, qui sont néophytes dans l'histoire. Je me suis dit, pendant de longues années, je regardais ces politiciens et même en les critiquant et en disant, mais mince, ça joue jamais comme je veux, on a une dent envers eux, ça marche pas, ça bouge pas. Et puis, voilà, donc après, j'ai eu le choix et l'opportunité de me dire, eh ben, finalement, j'y vais aussi pour essayer de faire changer les choses. Je pense que... Je ne peux rien promettre, mais en tout cas, c'est l'intelligence collective qui va faire avancer les choses et arriver à créer et à offrir concrètement des solutions aux citoyens.
D'accord. En tout cas, c'est vrai qu'on ne peut rien promettre, mais on peut promettre de se battre. Voilà. Ça, c'est sûr. On ne peut pas promettre d'avoir. Ouais. On peut promettre de tout faire pour faire, pour exprimer nos idées, pour essayer de convaincre le plus large public possible que les idées qu'on développe, les idées qu'on soutient, ce sont de bonnes idées, voire de très bonnes idées pour certaines d'entre elles.
Olivier.
Oui, ce que j'aimerais rajouter, ce que j'aurais peut-être dû dire depuis le début, c'est que le Parti radical de gauche, c'est avant tout redonner au radicalisme ses lettres de noblesse. On a l'impression, c'est notre sentiment, que le Parti libéral radical a depuis au moins les années, fin des années 80, début des années 90, laissé tomber le radicalisme d'origine, qui était quand même un sacré progressisme. Et je pense qu'on est les seuls à défendre désormais ces valeurs d'origine.
Ouais. On reviendra effectivement là-dessus, sur les origines du mouvement, peut-être lors d'une autre émission. On verra si on a le temps aujourd'hui, mais c'est vrai que ce serait intéressant de reparler de la figure de James Fazi et du radicalisme historique, en tout cas, d'autant plus à l'aune justement de tout ce qui a pu être dit par rapport à ça et des déviances qui ont pu être parcourues, quoi, pourrait-on dire. On va revenir au programme sous peu, mais avant cela, j'aurais voulu connaître les ambitions. Est-ce que vous vous êtes quand même posé un objectif précis en termes de pourcentage de voix? On sait qu'il y a un quorum, ça je le dis pour les personnes qui écoutent, 7%. Un quorum de 7%, voilà, en dessous duquel il n'y a pas de représentation. Et on va peut-être aussi préciser que c'est une élection qui est un petit peu à la proportionnelle et un petit peu à la majoritaire, dans le sens où le numéro de la liste va, c'est-à-dire la proportion de vote au numéro de la liste va déclencher le nombre de personnes qui pourraient être élues, et c'est ensuite au nombre majoritaire, donc sur la liste, que les personnes siégeraient. Je ne sais pas si j'ai été clair ou si quelqu'un de vous veut éclaircir. Mais donc, c'est ça, hein, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué de l'expliquer. Donc il y a cette partie proportionnelle liée au numéro de la liste. Pour vous, c'est la liste numéro 8. Et puis ensuite, la notion de majoritaire qui, elle, s'inscrit au moment où qui dans la liste siégerait. Alors, quelles seraient vos ambitions, bien entendu, de dépasser le quorum? Et puis ensuite, trois petits points, qui ont envie de répondre à ça? Jean-Claude.
Disons qu'on a une double liste, hein, c'est-à-dire on a une liste via le Grand Conseil, hein, ça c'est les députés du peuple, et puis on a une liste pour le Conseil d'État. Donc évidemment que on pense que au travers de Pierre Gauthier, de Magali Orsini, on pourrait avoir des représentants de valeur pour cette fonction de magistrature. Maintenant, c'est vrai que dans la question de la représentation au Grand Conseil, eh bien, en tout cas pour moi, l'objectif c'est d'atteindre le quorum déjà, et je pense que c'est difficile hein, quand même de le faire. Donc il faut que nos idées puissent être expliquées, être entendues, et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, en tout cas en équipe. Hein. En ce qui me concerne, je suis plus lié à l'aspect, je dirais, audio, parce que ayant perdu la vue il y a 2 ans, j'essaye maintenant de pouvoir être utile sous d'autres formes. Donc j'essaie d'expliquer les choses de la manière dont je peux le faire. Et voilà, maintenant, c'est vrai qu'on doit être présent, on doit expliquer notre programme et notre projet. Mmh.
L'ambition, elle est là, effectivement, au niveau de la campagne. On a un tout petit budget comparé...
Alors j'allais venir justement à cette question.
En comparaison à d'autres parties qui ont des budgets énormes. C'est pour ça que d'ailleurs dans notre programme on demande qu'il y ait un plafond au niveau du budget campagne. C'est pour cette raison aussi que notre camarade Catherine Armand a eu l'idée de reverser une partie de notre budget campagne à des associations. Donc 6% de notre budget campagne en forme de don, parce qu'on s'est dit si tous les autres partis avec leurs 300 000 francs de budget de campagne pourraient reverser également 6% de leur budget à des associations, eh ben, ce serait du concret, ce serait quelque chose vraiment de bien, et puis... Ça permettrait aussi de mettre une forme un peu d'égalité pour tous les partis. Parce qu'actuellement, les gros partis qui ont des gros budgets ont forcément plus de chances de se faire élire. Et puis ça va tourner en boucle et on va être confronté toujours à la même politique. Alors que si le budget était plafonné et qu'on aurait tous les mêmes chances, il y aurait certainement un nouveau renouvellement du Conseil.
Certainement, oui. Olivier, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, comme dit, en fait, le quorum est un sacré défi pour les petits partis. Et donc, notre objectif, c'est quand même de le réduire à quelque chose de plus raisonnable, parce que 7%, c'est vraiment trop élevé. Et c'est un vrai déni démocratique, en fait. Toute une partie de la population se voit régulièrement pas représenté correctement.
En tout cas, quoi qu'il en soit, combiner effectivement des campagnes et des frais de campagne, c'est une arme terrible, parce que si on veut écrémer par le haut, on fait qu'effectivement ça coûte plus cher, en tout cas que les gens qui ont plus d'argent puissent être plus élus, et pour niveler par le bas, eh bien évidemment on coupe toute la partie inférieure en faisant un quorum le plus haut possible, et c'est vrai qu'en tout cas les deux conditions simultanées, en tout cas de nos... si on voulait l'observer comme ça, pourrait être effectivement un déni de démocratie, clairement. Mmh. Alors, justement, qu'en est-il de cette campagne, de ces frais de campagne ? Comment est-ce qu'on finance ça lorsque, justement, on est une liste citoyenne et puis que, eh bien, voilà, l'argent n'est peut-être pas aussi facile à obtenir, à réunir que dans d'autres... sur d'autres listes, Nicole.
Alors le budget provient des jetons de présence de nos élus, essentiellement, et après des cotisations. Donc, quand on a créé la liste pour Genève... Tous les membres ont versé une petite cotisation. Effectivement, ce n'est pas énorme. C'est 30 000 francs de budget.
Pour toute la campagne, c'est 30 000 francs de budget en ce qui concerne la liste pour Genève.
30 000 moins 6%.
Moins 6%, voilà.
Ouais, non, mais c'est vrai. On va revenir sur ce don-là. Mais effectivement, c'est pas des gros budgets, Olivier.
Oui, et puis il faut comparer donc ça au grand parc. Enfin, pas forcément au grand et moyen parti où ça... On parle de plusieurs centaines de milliers de francs de budget de campagne. Donc, faut reconnaître à nos élus, qui sont que trois, de faire de gros efforts en matière de financement de ce budget de campagne.
Oui, tout à fait. Revenons à ces 6%. Qu'est-ce qui vous a pris de vous dire, on va reverser, on n'a déjà pas beaucoup d'argent, mais le peu qu'on a, eh bien, on veut qu'une partie de ce peu qu'on a soit reversée. Est-ce qu'il y avait l'idée d'avoir une emprise sur le réel que... Peut-être d'autres choses non pas ou que...
Jean-Claude.
Alors, oui, Jean-Claude écoutez, qui répond.
Oui, écoutez, je pense que les 30 000 francs dont on parle, c'est très sincèrement, moi je trouve que c'est un budget qui est correct, qui est sympathique. Qu'est-ce que c'est qu'une campagne électorale pour le Grand Conseil ? C'est d'aller vers les gens, c'est de les rencontrer, c'est de discuter avec eux, c'est d'expliquer les choses, c'est de passer du temps à leur expliquer, à les convaincre peut-être, et puis à leur montrer qu'il y a une alternative qui est possible et que ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui sont là depuis 10, 12 ou 15 ans parfois qu'il faut continuer à continuer avec les mêmes. Je pense que c'est vrai que le changement, c'est quelque chose qui apporte énormément de souffle, d'oxygène dans la vie démocratique d'un canton comme celui de Genève. Alors voilà, je pense que ça, c'est une première chose. Et puis, il est vrai que les 6% dont on parle, ben je pense que c'était une occasion de pouvoir réunir un petit peu d'argent. On l'avait. Puis on s'est dit, ben, au lieu de tout utiliser et puis de tout coller sur les murs, peut-être que ce serait plus utile de pouvoir donner un petit peu d'argent à des associations qui sont pratico-pratiques sur le terrain, qui sont en contact direct avec des populations fragiles, des populations qui sont en grande difficulté. Et donc, voilà, 6%, c'est peu de choses, mais c'est quand même un petit peu quelque chose. Et donc, si les autres partis arrivaient à faire de même, alors peut-être que là, on arriverait à améliorer significativement la vie de certaines personnes.
En tout cas, l'appel est lancé vis-à-vis des autres listes. Pourquoi pas suivre l'exemplarité de la liste numéro 8 et puis, de la même manière que vous faites ça, et bien qu'ils le fassent aussi.
Parce que vous savez, coller 300 000 francs de portrait sur les espaces publics mis à disposition, c'est pas très... Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça ne me plaît pas particulièrement. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire avec cet argent.
Oui, je pense bien également. Alors, revenons à votre programme. Qu'est-ce qui ferait que moi, par exemple, qui effectivement suis un petit peu picoré ici et là sur les listes, un petit peu regardé, quelles sont ces saillies qui feraient que j'irais plus, je chevaucherais plus les idées de la liste pour Genève? Alors, vous avez déjà en ébauche dit quelques-unes des singularités, la République, la laïcité. Quand on dit République, vous mentionnez bien la chose publique, c'est-à-dire peut-être recouvrer certaines valeurs et certaines attitudes peut-être qui seraient différentes et qui en ce moment peut-être seraient en train d'être délitées, je ne sais pas. Olivier.
Alors, je pense que ce qui nous différencie aussi des autres listes, c'est que notre programme est évolutif. Et d'ailleurs, actuellement, en particulier la partie santé est en train d'être repensée avec de nouvelles personnes et des personnes existent et déjà faisant partie de la liste parce que on a de nouvelles idées et puis il faut savoir évoluer, savoir se remettre en question et je crois que ça ça fait partie de notre identité.
D'accord.
Une des lignes de la liste pour Genève, c'est d'éradiquer la pauvreté, d'avoir un revenu minimum, d'avoir un salaire minimum, les soins dentaires qui soient pris en charge par l'assurance de base. Voilà, c'est quelques aspects.
Le domaine de la santé, on sait que dans la population suisse en général, mais je pense que Genève n'échappe pas à cette pensée-là, la santé, ça fait partie des trois sujets les plus importants de la population résidente. Donc, évidemment que la santé, c'est quelque chose de fondamental. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de sujet tout à fait construit maintenant dans le programme parce que c'est pas simple. Il faut aborder les choses de manière la plus intelligente possible et puis offrir des perspectives qui soient des perspectives jouables. Je dois dire qu'il y a quand même quelque chose qui évolue depuis quelques années avec la question liée à l'assurance cantonale. L'assurance unique, elle avait été refusée, mais c'est vrai que dans les cantons, on peut imaginer avoir des assurances cantonales. Et je pense que là, on est sur quelque chose de fondamentalement bien pour la population. Et je pense qu'il faut creuser cette affaire. Il faut aller dans ce sens-là. En tout cas, nous, on espère pouvoir y aller de manière ferme et au plus court terme possible. Et parce que c'est des questions fondamentales. Nicole parlait des frais dentaires. Il y a un tas de choses qui pourraient être intéressantes là-dedans, sachant qu'aujourd'hui, quand on parle des frais de l'assurance maladie, on entre dans un labyrinthe. Personne n'y retrouve rien. Même les autorités fédérales ne savent pas plus de quoi elles parlent. J'ai eu récemment un entretien téléphonique à Berne avec un des responsables de la partie caisse maladie qui a été incapable de me répondre sur quelque chose de tout simple. C'est les 500 francs annuels destinés au transport et savoir quelles étaient les assurances, comment étaient pris en compte les 500 francs annuels de frais remboursés par les caisses maladie pour les transports. Est-ce que c'était l'intégralité pour tous les assurés qui étaient pris en compte? Est-ce que c'était qu'une partie? Combien? Aucune idée.
Donc là, il y a un gros travail à faire, clairement.
Alors, c'est vrai qu'en ayant des assurances plus cantonales, on aurait une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus précise. Et je suis sûr, avec des économies à la clé, bien évidemment.
Certainement. On a parlé tout à l'heure du salaire. Est-ce que le RBI, le revenu de base inconditionnel, qui a été, il y a de cela, quoi, 2 ans peut-être, est conduit, mais qui a quand même, d'ici là, certainement depuis, fait son... du chemin. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui vous touche et que vous auriez envie d'aborder? Ou en tout cas, le rapport au salariat, le rapport au travail. Olivier?
Dans notre programme, justement, on parle d'un revenu universel, mais on ne l'imagine pas forcément comme le RBI. Ça reste encore à déterminer, mais c'est vrai que on n'est pas... Pour l'instant, on parle de l'idée d'un revenu universel.
D'accord. Pas plus loin pour le moment. C'est quelque chose à élaborer, exactement. Ouais.
Je crois qu'il faut se rendre compte qu'on vit sur Genève. À Genève, ça veut dire qu'on est dans un canton-ville et que ce canton-ville est considéré, sur le plan des statistiques internationales, comme une des régions les plus chères du monde. Donc, il y a une réalité. Et puis, on voit que la paupérisation gagne en surface, c'est-à-dire qu'elle touche de plus en plus de personnes. Il y a de plus en plus de personnes qui sont obligées d'accumuler les types de travail, les types de jobs qui sont la semaine, le soir, le week-end, pour pouvoir joindre les deux bouts. Moi, je peux vous assurer que dans le cadre de ma fondation, je le vis tous les jours avec des personnes qui sont en EDS et qui vivent des situations épouvantables. Donc, oui, il faut qu'on arrive à avoir des salaires plus, j'allais dire presque un peu plus élégants. Parce que c'est un manque d'élégance terrible que de faire des salaires qui sont quasiment invivables. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de travailler dans cette perspective-là. Maintenant, dire voilà ce qu'on veut faire et puis voilà comment on va le faire. Non, c'est juste pas possible parce que je crois qu'on est conscient de qui on est et de la force qu'on représente, mais je pense qu'on peut donner une dynamique dans la direction où aller pour essayer de limiter un petit peu cette paupérisation qui s'annonce majeure dans les années qui viennent.
D'accord, donc déclencher, donner une dynamique, donner un élan, ça fait partie de ce que vous avez envie de dire, Olivier.
Absolument.
Oui, peut-être pour être un peu plus précis, un type de revenu, c'est-à-dire le salaire, l'idée c'est d'en prévoir un minimum au niveau cantonal.
Oui, d'accord.
Parce qu'actuellement, il y a de plus en plus de personnes qui sont sur le fil, on dit ça working poor, on ne peut pas faire un écart ni à gauche ni à droite. On a un salaire minimum avec tout ce qui nous tombe dessus comme facture. Il suffit d'un licenciement, il suffit d'une maladie pour tomber tout de suite.
Et les personnes basculent.
On bascule dans le côté de la pauvreté et puis après, c'est une spirale qui nous tire vers le bas et il faut lutter là contre.
Alors effectivement, on est dans une phase, Jean-Claude l'a dit, de paupérisation des populations, les classes moyennes qui sont de plus en plus touchées, elles aussi. Qu'en est-il de l'urbanisme? Est-ce que ça, c'est un argument également qui vous touche avec, pourrait-on dire, une gentrification galopante avec des quartiers, je pense notamment aux quartiers autour de la gare, mais également des Paquis, où effectivement, on s'aperçoit que les logements sont déjà extrêmement compliqués, monnaie rare, j'aurais envie de dire, à Genève, victime certainement de plus-value, de choses comme ça. Alors, qu'en est-il par rapport à l'urbanisme et qu'en est-il par rapport au parc immobilier, selon vous, selon la liste pour Genève? Est-ce que là, il y a quelque chose, selon vous, à faire?
Alors c'est vrai qu'on a un spécialiste de la question, c'est Stéphane Guépierre, mais en son absence aujourd'hui, ce que je pourrais dire, c'est que évidemment, on est sur une question fondamentale depuis des années, des années, des années. Ça fait 30 ans que, plus de 30 ans que je vis à Genève, ça fait plus de 30 ans que la question du logement est récurrente à Genève. Alors tout le monde y est allé, tous les partis bourgeois, ils sont allés de leur petite sérénade sur on va augmenter, ça va mieux aller, on va résoudre. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, rien n'est résolu. Rien. Et puis, je suis désolé, mais cette dernière législature, c'est pas les partis bourgeois qui étaient en charge de cette question, c'était apparemment le parti écolo qui, je suis désolé, aujourd'hui, quoi de neuf docteur? Eh bien, rien, sinon que les loyers sont quasiment inabordables. On est toujours à des studios à 1000 balles, on est toujours à des appartements 2 pièces, 3 pièces. On sait, sachant que les familles explosent maintenant et qu'il faut avoir des appartements plus grands, plus vastes pour accueillir les enfants, c'est juste une... Ça devient invivable. Alors, non, c'est parfaitement vivable si vous gagnez 25, 30 000 francs par mois. Ça, il n'y a aucun souci. Vous trouvez de quoi vous loger. Si vous en gagnez que 5 000 ou 6 000, là, ça devient vraiment, vraiment un véritable enfer. Et ça, c'est pas acceptable. Moi, je penserais qu'il faut développer les coopératives, qu'il faut développer des organisations plus collectives. C'est pas le collectivisme que je prône. C'est simplement se mettre ensemble pour pouvoir créer ensemble des solutions individuelles ou familiales. Et donc, oui, ça, c'est faisable. Mais il faut en avoir l'envie, il faut en avoir l'objectif, il faut l'avoir implanté dans le ventre pour pouvoir le faire. Et malheureusement, ça ne se fait pas parce que voilà, on y va au minimum dans cet aspect-là. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que les gens qui possèdent les locaux sur Genève, ils ne veulent surtout pas que les choses avancent. Parce que plus c'est rare, oui, plus c'est cher. Alors évidemment que c'est quand on a des logements en veux-tu, en voilà, comme certains, je dirais, adversaires de notre liste, il faut surtout pas qu'on règle le problème. Le problème tel qu'il est nous convient parfaitement bien.
D'accord. Alors, je vais juste pour dire que les personnes qui sont présentes avec nous, si elles souhaitent poser des questions, c'est possible. Que nous avons encore une dizaine de minutes et puis on en arrivera au terme de cet entretien. Donc, il va falloir les poser ces questions si vous le souhaitez. Et puis, j'aurais voulu vous entendre également. Je ne sais pas si vous abordez ce sujet-là, mais on sait qu'à Genève, parmi les arguments qui apparaissent beaucoup prégnants, pourrait-on dire, c'est le trafic, la cohabitation, voiture, vélo, deux roues, piétons. La mobilité douce en général, est-ce que ça, c'est quelque chose, Nicole, toi qui habites dans l'hypercentre, au Paquis, est-ce que ça, c'est quelque chose pour lequel vous êtes sensible et sur lequel vous avez réfléchi?
Bien sûr, il y a une grande amélioration à faire au niveau de la mobilité, notamment les pistes cyclables. Moi, je prends rarement mon vélo parce que j'ai peur vélo. Quand il y a des pistes cyclables qui vont dans le sens inverse de la route, où il y a un banc tout à coup qui nous arrive en face, enfin, voilà, c'est très très mal desservi et c'est un point qu'il faut améliorer. Après, il y a aussi l'amélioration des transports publics. Alors bon, je ne sais pas si c'est... Le réseau, pour moi en lui-même, il est déjà assez bon, c'est assez bien desservi. Il y a peut-être une amélioration à faire au niveau du tarif demandé pour les prendre.
D'accord.
Jean-Claude et puis Olivier. Nicole parlait des pistes cyclables. Je suis navré, mais je n'ai pas compris de quoi elle parlait. Dans le sens où, même si je ne vois pas, j'ai vu jusqu'à il y a 2 ans, en tout cas jusqu'à il y a 2 ans, moi, les pistes cyclables, ouais, c'était des traces sur la route, quoi. Mais c'est ça des pistes cyclables? Est-ce qu'on est allé voir dans d'autres pays, dans d'autres régions, où la bicyclette est mise en évidence et soutenue, ce que c'est que des pistes cyclables? On est allé regarder en Suisse allemande, ne fût-ce que là, comment étaient faites les pistes cyclables. Non, non, deux, trois marquages, deux, trois coups de pinceau sur la route pour faire une piste cyclable, c'est pas ça une piste cyclable. C'est juste l'envie de permettre aux cyclistes de se comporter un petit peu comme des fanfarons, parce que la vie du cycliste à Genève, c'est ouais, dramatiquement c'est dangereux. Oui.
Il nous faut des voies vertes. Il nous faut plus de voies vertes, pourrait-on dire, en tout cas selon vous. Olivier, tu voulais ajouter des choses.
Oui, alors je suis assez actif dans diverses associations, enfin membre de diverses associations actives dans la mobilité douce, comme la TE ou Active Trafic. Mais je dois reconnaître qu'il faut faire attention de ne pas trop culpabiliser, de ne pas trop taper sur ce qui est automobiliste ou utilisateur d'autres véhicules motorisés, parce que malheureusement le cadre encourage ça, en fait, encourage tout. Assez peu, en fait, l'écologie en général. Et on a fait de graves erreurs en promouvant aussi largement les voitures, enfin, le trafic motorisé il y a quelques décennies. Et on en paye le prix maintenant. C'est difficile d'en sortir. Il faut donc changer le cadre avant de taper sur les différents individus qui, en fait, sont des victimes avant tout.
Ouais. Donc, c'est des attitudes et des valeurs qu'il faudrait arriver à transformer, selon vous. Une question très, très triviale. La traversée de la rade, selon vous, oui, non, et si c'est oui, c'est un pont, un tunnel? Olivier, vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein.
Alors, oui, en fait, il faut parler de traversée du lac. Hein. La traversée de la rade, ça a été voté par le peuple. Absolument. Et refusé.
Tout à fait.
Donc, le principe de la traversée du lac a été approuvé par le peuple, à mon avis, avec des arguments trompeurs. Et je pense donc qu'il faut ça se fera probablement jamais. Ça se fera probablement jamais. À mon avis, ça sert à rien de trop s'opposer parce que tout simplement c'est pas réalisable. Il y a trop de d'obstacles écologiques ou autres, légales. Et donc je pense qu'il faut pas se faire d'illusions. Ça va pas se faire et les partisans devraient se rendre à l'évidence.
Ok, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit, on promeut le covoiturage, on essaie de relocaliser les métiers, les emplois, est-ce qu'on amplifie encore les transports publics? Enfin, selon vous, y a-t-il des solutions relativement possibles, disons, à court terme, ou c'est vraiment effectivement des attitudes également qu'il faut transformer? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il y a effectivement après du très concret peut-être que l'on doit viser. Jean-Claude.
Voilà, c'est ça qui est bien dans la liste pour Genève. En ce qui me concerne, la traversée du lac, bien sûr. Parce qu'il faut se rendre à l'évidence que Genève est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac, on ne peut pas faire autrement, sinon on gardera le pont du Mont-Blanc. Très bien. Ben, si on veut le pont du Mont-Blanc, on l'aura, hein. Vous inquiétez pas. Aujourd'hui, il n'y a pas, selon moi, il n'y a pas d'autre solution. Et je trouve que le projet qui est présenté par le conseiller Bartassa, pour moi, c'est un relativement bon projet. Je fais partie de la liste pour Genève. Je sais que là-dessus, on n'a pas tous les mêmes idées. Tant mieux, parce que ça permet le débat à l'intérieur de chez nous. Et ce n'est pas, comment je pourrais dire, on n'arrive pas avec tous les mêmes idées, comme si on était des clones. Nous ne sommes pas des clones, nous sommes des individus. Et donc voilà, simplement, oui, il faut développer d'autres formes de mobilité intramuros. Et il faut organiser le canton peut-être de manière un peu différente, mais on devra bien se rendre à l'évidence que le trafic étant ce qu'il est, certains pensent déjà s'envoler dans les airs pour aller plus vite.
Oui, absolument.
mais non, ben ça alors on n'y est pas encore. Et puis j'espère qu'il n'y aura pas les mêmes bouchons en l'air qu'il y a déjà par terre. Et donc, non, il faudra organiser les choses de manière différente.
En ce qui me concerne. Alors, on arrive doucement au terme de cet entretien, mais j'aimerais encore, à moins que des questions surgissent, pour le moment pas. Oui, non? Alors. Approche, prends un micro.
Ouais, justement, moi, comme je suis chauffeur de taxi à part la radio, donc au niveau du trafic, je suis quand même bien branché, bien au courant de voir un peu ce qui se passe. Et c'est vrai que, bon, une traversée du lac, ça serait une bonne chose. En même temps, on nous a, dans le projet, on nous a promis une traversée du lac, oui, mais avec la fermeture totale, quasiment, du centre-ville de Genève aux voitures. Et là, je me dis, bon, mais il y a quand même des gens qui sont en mobilité réduite. Moi, en tant que chauffeur de taxi, je suis toujours un petit peu en difficulté, même déjà pour les rues basses qu'on a fermées au trafic automobile. Voilà, qu'il y a des gens qui me demandent quand même, est-ce qu'on ne peut pas passer, est-ce que... Alors, à certaines heures, oui, mais après, non, etc. Et puis, ça, mais je pense que ça peut se régler au cas par cas, et suivant les conditions, on voit toujours les livreurs, les professionnels. Je pense qu'on devrait avoir quand même une case un petit peu à part au niveau du trafic. Maintenant, je vois aussi le trafic international et national, c'est-à-dire que bon, ben, les frontaliers, les Vaudois, etc., qui viennent tous à Genève à la même heure, etc., qui repartent tous à la même heure, c'est ce qui crée une bonne partie des bouchons. Et on a densifié le transport public au centre-ville, mais on n'a quasiment rien fait à la périphérie. Et ça, c'est un scandale incroyable, parce que la personne qui habite à la périphérie, parce que même le CEVA va rien arranger, ça je le sais, mais pertinemment, la personne qui habite dans les Hauts-d'Annemasse, direction La Roche-sur-Foron, qui doit descendre avec sa voiture, prendre le train à Annemasse pour revenir sur Genève, il dit, bon, tant qu'à faire, je continue. Et ces histoires de parking, machin et tout, non, il faut que les gens, les transports publics, aillent chercher là où se trouvent les gens. Et donc là, il y a un effort énorme à faire au niveau de la périphérie, et si on veut, et en même temps, il y a aussi quelque chose qui me scandalise, c'est que les gens qui travaillent à Genève n'ont plus la possibilité d'habiter à Genève. Parce que moi, si je n'étais pas chauffeur de taxi, je faisais un autre métier, que je travaillais dans les bureaux, etc., et que j'ai un appartement à Genève, et puis que je travaille sur Genève, j'oublie ma voiture. Je ne sais plus ce que c'est qu'une voiture. Et moi, j'avais fait la remarque à notre ex-conseiller Robert Kramer. « Ah, mais non, mais quand même, une voiture, c'est bien pour les week-ends et tout. » Bon, je me demande, là, quand il m'a répondu ça, je l'avais dans le taxi, je me suis dit, mais à quoi il joue, là? Parce que franchement, moi, je suis pour oublier la voiture si du moment que ça devient inutile.
Tout à fait. Ah ouais, je suis dans le même cas de figure, j'habite au centre-ville, j'ai abandonné ma voiture il y a 15 ans, parce que, voilà, disons, les transports publics suffisent, et puis on est bien comme ça.
C'est peut-être une part de la solution, c'est d'abandonner massivement
les voitures.
D'accord. Alors, auriez-vous envie de réagir à ce que vient de nous dire Philippe ?
Moi, je pense qu'il y a une réalité. Hein. Je pense que quand on est au volant d'un véhicule à Genève et qu'on y a son activité professionnelle, il y a une réalité. Je pense que vous savez parfaitement bien de quoi vous parlez. J'allais dire, chers collègues, parce que on fait un petit peu le même travail avec des personnes à mobilité réduite. Hein. C'est une vraie difficulté aujourd'hui. L'organisation du transport mérite encore et toujours une véritable task force pour pouvoir organiser la circulation, les transports et l'accès au centre-ville. C'est vrai que l'accès au centre-ville devient extrêmement difficile pour toute personne qui ne serait pas, vous savez, ce jeune homme trentenaire avec son vélo électrique qui peut courir et crapahuter à gauche et à droite. Ça, c'est relativement simple. Pour quelqu'un qui est un tout petit peu plus fragile, qui est un petit peu plus âgé, qui a des difficultés, ça devient extrêmement compliqué.
Olivier.
Ben, je pense que le témoignage entendu était très sensé. Et en matière de périphérie, c'est clair que l'État doit absolument investir plus pour encourager justement ce qui est mobilité douce ou transport public. On est obligé d'investir plus si on veut que faire ce fameux report modal que tout le monde souhaite, en fait.
Absolument. Alors, on arrive vraiment là au bout de cet entretien. Donc, la dernière chose que j'aimerais vous demander, avant que vous ne puissiez évidemment clore la discussion, ce serait les prochaines échéances. Nous sommes donc en campagne. Les élections, c'est le 15 avril. D'ici là, que va-t-il se passer pour la liste pour Genève. On va rappeler le site internet déjà, c'est www.lalistepourgenève.ch, donc la liste pour Genève en un mot. Là, évidemment, on y trouve le programme, on y trouve les candidates et les candidats, tout ça. Mais voilà, y a-t-il des échéances? Allez-vous, organiser des stands? Est-ce que les personnes peuvent venir justement vous questionner? Comment ça va se passer d'ici au 15 avril?
Alors, bien sûr, il y a toute une liste, il y a plein de dates de stands où nous serons présents dans différents endroits du canton. Les dates figureront sur le site La Liste pour Genève. Il y a aussi une page Facebook, La Liste pour Genève. Et puis, nous organisons une conférence 4.0 le jeudi 15 mars à l'Université ouvrière à 18h30. Voilà.
D'accord. Université ouvrière, donc juste derrière la gare, place du Cercle.
Oui.
Je crois, hein, c'est ça, la place du Cercle. Aux Grottes, dans le quartier des Grottes. Ça jouxte les cinémas.
Tout à fait.
Voilà, donc on ne peut pas ne pas trouver ça. Très bien. Y aurait-il des questions que je ne vous ai pas posées, auxquelles vous auriez souhaité répondre? Ou est-ce qu'on a été relativement exhaustif? Jean-Claude.
Ouais. Une chose sur l'économie, on n'a pas beaucoup abordé ça parce que c'est quelque chose qui est lié beaucoup à Magali Orsini, qui est une spécialiste dans cette question-là. Mais moi, je dirais que je m'y intéresse aussi de manière peut-être plus, avec un petit peu plus de distance. Mais je trouve qu'aujourd'hui, l'économie genevoise est une économie qui est, qui travaille sur une économie finie, c'est-à-dire que c'est des produits qui ne sont pas utilisables et réutilisables et encore réutilisables. On est sur une économie linéaire et non pas une économie une économie circulaire. Et j'avais envie de dire si les auditeurs qui nous écoutent peuvent peut-être s'intéresser à des gens comme Idriss Aberkan, qui est quelqu'un d'extraordinaire en termes de perception du futur, en termes d'imaginer l'avenir, ou des personnes comme Gunther Pauli, qui sont des gens extraordinaires en termes de découverte de moyens de proposer une économie circulaire quasiment illimité. Donc ça, c'est des choses, je le dis pas comme ça pour rigoler, c'est des choses fondamentales et je pense qu'il faut qu'on s'y intéresse parce que ça, c'est l'avenir. C'est pas ce qu'on a vécu qui est l'avenir. Il faut essayer de ne pas avoir l'avenir derrière soi, mais l'avenir devant soi.
D'accord, merci. Nicole ?
Oui, et puis un thème qu'on n'a pas abordé, c'est la sécurité, la sûreté. Donc juste rapidement, donc la liste pour Genève et pour le démantèlement du trafic de drogue, pour la réunification des polices, pour la mise en place de moyens de médiateurs, chuchoteurs de nuit, donc avant la répression, le dialogue,
la médiation. Voilà, les chuchoteurs de nuit, c'est les personnes qui sont sur les lieux, aux abords des lieux bruyants.
Tout à fait.
Bruyants. Qui essaient de l'être le moins possible et qui font la médiation entre le voisinage et puis ces lieux.
Voilà, pour apaiser et calmer le jeu. Ouais. Et puis pour la liberté de manifestation élargie, sans amende, un service d'ordre qui est mis en place par l'organisation.
D'accord. Olivier, des choses à dire?
Eh bien, moi, j'aurais un petit pensée pour les victimes des conflits dans le monde, en particulier la Syrie et son Rojava. Où justement c'était une expérience incroyable avec les idées de Murray Bookchin qui étaient mises en pratique. Et puis malheureusement, on sait que c'est attaqué de toutes parts et la population locale souffre terriblement. Donc en tout cas, comme tu parlais justement des rencontres de Licinia, c'est vrai que une région dont j'ai à peine entendu avant, j'ai appris à la connaître et puis...
Oui, et puis des pratiques dont on pourrait s'inspirer, partiellement, et puis des échanges opérationnels qui pourraient être mis en place, en tout cas. Effectivement. Alors, on reviendra bien entendu là-dessus. Moi, j'aimerais pour conclure, déjà vous remercier d'être venu. Donc, Nicole Kuderly, merci beaucoup.
Merci à toi.
Jean-Claude Rückterstuhl, C'est bien. Parfait, ouais. Ah, génial. Je m'excuse hein, d'avoir écorché tout à l'heure. Et puis Olivier Zimmermann, ça, j'ai l'habitude. Alors, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu. Et puis, nous, nous aimerions beaucoup, peut-être que cela vous intéresserait, organiser une sorte de café citoyen où, du coup, on inviterait des représentants des trois listes citoyennes. Nous, voilà, de nouveau, on a ce côté voilà, avec les listes citoyennes où, de manière simultanée, eh bien, justement, on pourrait aborder point par point des sujets comme ceux qu'on a extrêmement triviaux, extrêmement importants, que l'on a évidemment pas pu aborder aujourd'hui, qui serait par exemple effectivement l'économie, les infrastructures, la santé, vous l'avez déjà bien dit, mais vraiment peut-être aborder ça point par point et puis essayer d'avoir un débat, une discussion constructive. Voilà, si ça vous est, c'est un appel qui est lancé, pourquoi pas. En tout cas, je vous laisse y réfléchir.
Merci. Voilà. Beaucoup reste à dire.
Ouais, absolument, tout à fait. En tout cas, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite bon courage pour la suite de la campagne. Merci. Et puis quoi qu'il en soit, on va se retrouver plus loin.
Merci.
Bon week-end. Alors nous, on fait une petite pause musicale et puis juste derrière, eh bien, ce sera le deuxième sujet sur trois de la journée. Nous recevons deux personnes avec lesquelles nous allons parler de l'initiative Monnaie Pleine. C'est pour dans quelques minutes. On y va.